Je voudrais porter votre attention sur deux récits dans la parole de Dieu qui sont deux projets différents mais qui ont les mêmes ingrédients. Ce sont des projets qui ont pour base l'unité, qui ont pour base un même lieu, qui ont pour projet de changer une identité. Et dans les deux cas, il y a une action de Dieu. Alors vous allez me dire qu'il y a une différence flagrante entre Genèse 11, qui sait de quoi je parle. Genèse 11, c'est quoi? C'est Babel. Et Acte 2, où il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. On pourrait même dire que l'un des projets fait agir Dieu pour engendrer la discorde, donc à Babel, le trouble et disperser les hommes. Et l'autre projet est un projet où Dieu donne son approbation et il équipe les hommes pour qu'ils puissent agir selon la volonté de Dieu. Alors on va lire le Genèse 11, verset 5. Donc j'ai mis en PowerPoint tous les versets. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Vous connaissez Genèse 1 où Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Et nous sommes à l'image de Dieu, c'est-à-dire que nous avons cette capacité de créer, de faire des projets, de bâtir, de faire quelque chose. On n'est pas juste sur terre pour être. Et les hommes, dans cette histoire de Babel, ils se sont dit « Mais faisons-nous un nom, soyons un peuple, un même peuple, montrons que nous existons ». Et ils ont entrepris à construire une tour qui touche le ciel. Et c'était un projet qu'on pourrait dire, oh là là, ils sont dans l'unité, et puis ils font ça ensemble, et puis il n'y a personne qui baille aux corneilles, tout le monde travaille, etc. Mais en fait, c'est pas un projet de Dieu, c'est pas un projet approuvé par Dieu, c'est pas un projet où ils se sont attardés pour connaître la volonté de Dieu. Ils ont fait leur projet tout seuls, ils ont fait leur plan sur la comète, comme on dit, et ils se sont unis pour faire cela. Et dans ce passage, qui est pour moi historique, parce que Dieu, du coup, va intervenir et il va confondre leur langage pour qu'ils ne puissent plus être unis, pour qu'ils ne puissent plus recommencer à construire quelque chose de cette sorte-là pour défier Dieu. Et aussi dans la chambre haute, dans Acte 2, ben Dieu aussi est interpellé et il intervient, mais il n'intervient pas de la même manière, parce que c'est un projet qui vient de lui. On va lire dans Acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Pourquoi l'unité ? L'unité, tout simplement, parce que c'est la personne de Dieu, c'est l'essence même de la personne de Dieu. On dit Dieu est Père, Dieu est Fils, et Dieu est Esprit. Donc il est trois en un, et donc l'unité, c'est sa spécialité. Et quand Dieu nous parle de sa parole, on peut voir de Genèse jusqu'à Apocalypse, on parle tout le temps d'unité. Dieu ne nous demande pas de faire les choses tout seul. Dieu nous envoie Jésus et Jésus nous dit qu'il est avec nous tous les jours de notre vie. Il veut faire les choses avec nous. Le Saint-Esprit est une aide pour nous consoler, pour nous aider à avancer. Et Dieu a créé l'homme à son image pour avoir une relation avec lui. Il n'a pas juste dire, tiens, on va faire des petits bonhommes, là, comme dans Sims, et puis on va voir ce qui se passe. Non, on n'est pas des personnes qui sont seules. Nous avons quelqu'un qui veille sur nous, quelqu'un qui se préoccupe de nous. Il a même écrit des projets sur nous. Et là, dans la chambre haute, ils sont assemblés pourquoi ils sont assemblés. Matthieu 18, verset 20 nous dit « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Donc l'unité, ça fait descendre Dieu. À Babel, les hommes, ils faisaient des choses. Et Dieu, il s'est arrêté, il s'est dit « Mais attends, il y a une unité, qu'est-ce qui se passe là ?» Ça le fait bouger, il se déplace, parce que c'est son caractère en fait. Donc si nous nous unissons pour faire quelque chose, Dieu, ça l'interpelle, parce qu'il ne peut pas y avoir d'unité sans Dieu. Et là, à Babel, c'était n'importe quoi. Donc Dieu est intervenu. Mais dans la chambre haute, c'était approuvé de Dieu. C'était une réponse à une obéissance. Jésus leur avait dit « Attendez mon Saint-Esprit ». Et donc, ils se sont rassemblés en obéissant à une parole de Jésus et ils ont reçu l'approbation de Dieu. Vous connaissez la prière de Jésus dans Jean 17, verset 20. Je vais vous la lire. Jésus dit « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père. Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alors, j'ai pas un problème de diction, j'ai bien fait exprès d'appuyer les un. 5 fois Jésus le dit dans cette prière. Et Jésus, il n'a pas un problème. Hein. Il n'est pas en train d'expliquer quelque chose à Dieu. Il n'est pas en train de convaincre Dieu de faire en sorte que nous soyons un en lui. Pour lui, c'est une évidence. Et quand il donne cette prière, quand elle est retranscrite aussi précisément, c'est pour que nous puissions comprendre pourquoi l'unité est nécessaire, pourquoi l'unité est centrale. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus, toutes nos actions sont vaines. Sans le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement, on peut faire tout ce qu'on veut. Il n'y aura pas de salut accordé aux hommes. Il est descendu à Babel, il est descendu dans la chambre haute. En tout cas, l'unité au milieu des hommes provoque Dieu. Il s'y intéresse. Il se demande s'il faut qu'il donne son approbation ou s'il doit livrer bataille. Je dis toujours que le chiffre 1 est trop petit pour un miracle. Des fois, on se dit « Ouais, je vais y aller tout seul, et puis je vais y arriver. » Et en fait, il ne se passe rien. Parce que si au moins on est seul avec Dieu, et franchement, la valeur ajoutée fait toute la différence, là, il va se produire quelque chose. Et quand nous nous unissons pour faire quelque chose ensemble, pour établir un projet, pour avancer dans quelque chose, nous, Église, nous avons ce pouvoir grâce à Jésus, grâce à Dieu, grâce au Saint-Esprit, de transformer l'essai et d'avoir des miracles, d'avoir des guérisons, d'avoir des conversions. Après la chambre haute, vous savez combien de personnes ont entendu la parole de Dieu et combien de personnes se sont converties? Vous le savez? Dans Actes 2? Plus fort? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et il y a juste un homme qui a parlé. Et après ce discours, il y a eu 3000 personnes qui se sont rajoutées à l'église. Juste parce qu'ils ont choisi d'attendre dans une même pièce ce que Jésus leur avait demandé d'attendre, le Saint-Esprit. Jean 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est encore l'unité. Je ne suis pas forte en maths, mais j'ai eu mon bac grâce aux maths. Et je vous assure que j'avais bien la valeur ajoutée divine, sinon je n'aurais pas eu mon bac. Et l'unité, vous savez, ce n'est pas quelque chose de naturel. Sinon, il n'y aurait pas de guerre sur Terre. Sinon, il n'y aurait aucun problème. L'unité, c'est quelque chose de difficile à obtenir. Difficile, mais pas impossible. Quand je dis difficile, C'est parce qu'il faut qu'il y ait de l'obéissance, il faut qu'il y ait du renoncement, il faut qu'il y ait du temps à part, il faut qu'il y ait de l'amour, de la compréhension. Et tous ces ingrédients-là, il n'y a que Dieu qui peut nous les donner, à les manifester dans notre vie de tous les jours. Donc c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Dans l'histoire écrite dans la Bible, il y a beaucoup de moments où il a fallu que quelqu'un s'unisse à un autre pour obtenir la victoire, ou que quelqu'un s'unisse à quelqu'un d'autre pour obtenir la guérison. Même dans les grands réveils de l'histoire de l'Église, c'est des personnes qui ont obéi, qui ont renoncé à leur propre personne pour qu'il y ait avec Dieu cette valeur ajoutée et qu'il y ait ce réveil dans leur pays. Jonathan, par exemple, est son porteur d'armes. Lui, il a dit « Allons-y !» Mais le porteur d'armes, derrière, c'est lui qui tuait les ennemis. Esther, devant le roi Ahasuérus, elle a quand même dit « Allez-y, jeûnez avec moi, on y va ensemble, hein, je vais me présenter, mais soyez avec moi, priez avec moi, jeûnez avec moi. » Moïse et Aaron, on aurait pu dire « Mais attends, Moïse, c'est l'homme de Dieu !» Non, il était épuisé. Il avait besoin d'Aaron et Hur pour maintenir ses bras élevés pour que le peuple de Dieu obtienne la victoire. Et c'est toujours une histoire d'équipe, c'est toujours une histoire de travailler ensemble, d'obtenir ensemble, parce que Dieu, il est un, et dans cette unité, il y a trois personnes. Et nous sommes multiples personnes dans l'Église, et nous devons avoir cet ingrédient qui crée la différence. Donc il faut de l'obéissance. Il faut de l'obéissance. Vous allez survoler n'importe quel passage dans la Bible et vous allez vous apercevoir que soit Dieu est très redondant, soit c'est très important et nous on a tendance à l'oublier. Donc il use de patience et il nous le répète, il nous le répète, il nous le répète, il nous le répète. Acte 1, verset 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, ils ont obéi à une parole de Jésus. Et pour revenir à la prière de Jean 17, verset 20, c'est une stratégie, en fait. C'est la stratégie militaire de Dieu. L'unité, c'est l'arme fatale de Dieu. Il est écrit « Je prie qu'il soit un comme nous sommes un. » Si vous avez une armée, mais que vous êtes incapable de la fédérer, de lui donner un but commun, il n'y aura pas de bataille. Hein. Chacun va vivre sa vie. Il y aura du relâchement. Quand vous allez sonner la trompette, personne ne va aller au combat. Si vous avez un mariage et que les deux personnes ne s'aiment pas, qu'elles ne veulent pas faire des concessions, qu'elles ne veulent pas renoncer à elles-mêmes, ou qu'elles n'ont même pas un projet commun, genre juste se marier, eh bien, il n'y aura pas de mariage. La fille, elle va rester à l'église, ou le gars ne va pas se planter, et vice-versa. Tous les projets sans unité deviennent des compétitions. Vous avez regardé les JO ? Eh bien, là, les gens, quand ils partent, quand ils entendent le « tutut », ils ne sont pas là, allez, tous ensemble, nous allons nager et ensemble, nous allons tous obtenir la médaille d'or. Non, c'est chacun pour soi. Et dans l'Église, ce n'est pas chacun pour soi. Nous sommes une équipe, nous avons un même but. Et le but, c'est de le faire ensemble. On n'est pas là pour avancer à toute vitesse et laisser tout le monde derrière à traîner, etc. C'est pas le but, c'est pas le but. Et rassurez-moi, on n'est pas en compétition, ni nous entre frères et sœurs, ni les églises entre elles. Sinon, vous vous êtes trompé d'endroit. L'unité construit la perfection de Dieu. Je vous ai dit, dans toute la parole de Dieu, il y a cette notion d'unité. Dans Apocalypse 21, verset 9, il dit « Puis un des anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il n'a pas dit « Viens, je vais te montrer 10 personnes. » Jésus choisira. Il n'a pas dit « Tiens, je vais te présenter les triplés ou les jumelles. » Non, il n'y a qu'une église. C'est-à-dire que cette unité, elle doit être aussi visible entre les églises différentes. Et pour qu'on soit tous au diapason, il faut garder la parole de Dieu, il faut être inspiré du Saint-Esprit, il faut obéir. Il n'y a pas 307. Il faut garder Jésus en tête des opérations. Et comme nous sommes un même corps, on n'a pas les mêmes talents, on n'a pas les mêmes dons, on n'a pas les mêmes capacités, mais c'est lui qui nous unit, c'est lui qui fait de nous ce corps. Et nous avons les mêmes, comme nous avons la même parole, nous avons les mêmes projets, faire des nations des disciples, obéir à la parole de Dieu et être soumis au Saint-Esprit. Ils étaient unis dans la chambre haute et ils attendaient quelque chose. Ils attendaient tous la même personne, ils attendaient tous le Saint-Esprit. Et c'est ça qui a fait qu'il y a eu 3000 âmes qui se sont converties. Je ne sais pas ce que vous faites quand vous venez le dimanche matin, qu'est-ce que vous attendez des cultes? Qu'est-ce que vous attendez de votre relation avec Dieu chaque jour quand vous lisez la parole de Dieu ou quand vous priez? Qu'est-ce que vous attendez en fait? Est-ce que vous voulez que Dieu exauce votre petite liste de courses? Est-ce que vous attendez avec impatience que vous ayez ce travail ou cette maison ou ce mari, etc.? Est-ce que vraiment votre envie, votre désir est de poursuivre les désirs de Dieu et de dire « Mais Seigneur, moi je veux l'unité, je veux aller dans cette église et je vais apporter cet amour, je vais apporter cette humilité pour que la personne qui est en face de moi ait cette facilité à m'aimer et qu'elle puisse elle aussi exercer cet amour et cette humilité et cette obéissance. » C'est un travail les uns avec les autres. C'est pas juste, comme je vous ai dit tout à l'heure, chacun pour soi. On est là tous à travailler ensemble. Marc 10, versets 6 à 9. Jésus a dit à ses disciples, « Au commencement du monde, quand Dieu créa l'humanité, il les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'un. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Vous allez me dire, je passe du coq à l'âne. Non, je passe pas du coq à l'âne. Parce que quand, dans Apocalypse, on présente l'épouse, c'est bien une femme et Jésus, c'est bien le Fils de l'homme. Et l'Église, c'est la même chose. On est aimé, on a cette relation et il n'y en aura qu'une. Et comme je disais tout à l'heure, dans les mariages, il faut qu'il y ait cet amour, il faut qu'il y ait cette relation. Dieu nous aime, c'est pour ça qu'il nous a créés et c'est pour ça qu'il veut une relation avec nous. Il ne veut pas juste nous prendre la tête. Il veut cette relation. Quand on aime quelqu'un, on veut une relation. Hein, les filles, vous aimez quelqu'un, vous êtes amoureuse de quelqu'un, vous voulez une relation avec cette personne. Allô? Messieurs, quand vous êtes amoureux de quelqu'un, vous voulez avoir cette relation avec cette personne. Vous ne l'aimez pas juste comme ça. Ah ouais, j'aime bien. Dieu veut une relation avec nous. Nous voulons une relation avec Dieu. Nous devons avoir une relation avec les frères et sœurs. C'est ça l'Église. Moi, j'en ai marre d'entendre que dans des églises, il y a des gens, ils viennent, ils repartent, ils sont électrons libres. Ouais, moi je vais là, le lundi je vais là, le mardi je vais là, le mercredi je vais là. Alors oui, peut-être qu'on peut avoir une impression de spiritualité spirituelle, mais ces trois choses demeurent, mais la plus importante, c'est l'amour. Alors quand quelqu'un faute et fait une grosse erreur comme l'adultère ou je ne sais quoi, on est là, ah oui, mais tu te rends compte, machin. Et par contre, quand quelqu'un dit « Ouais, non, moi je suis fâchée avec ce gars-là, ce frère, d'ailleurs c'est pas mon frère, je ne peux plus le supporter, nanana », on lui dit rien. Alors que le deuxième commandement, c'est quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et attendez. Attendez. Jésus nous dit. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi. Donc si on aime l'Éternel notre Dieu, on va être conduit à aimer notre prochain comme soi-même. Et on va accomplir la loi. 1 Jean 2, verset 9, excuse-moi Mélodie, je saute. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Vous vous rendez compte? Aucune occasion de chute n'est en lui. Ça veut dire que le fait d'aimer, d'obéir à ce commandement, d'aimer, de nous aimer les uns les autres, ça nous protège de la tentation, ça nous protège du péché. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Ça fait deux fois qu'il le dit dans le même verset. Il marche dans les ténèbres, troisième. Et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux, quatrième. 1 Jean 3, verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Vous vous rendez compte? Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Vous vous rendez compte? C'est la base. C'est la base. Et pourquoi je parle d'amour? Parce que l'amour conduit à l'unité. Et l'unité conduit à l'amour. C'est un cercle vertueux. Si vous apprenez à aimer l'Église, à aimer les chrétiens, vous allez pouvoir être unis avec ces gens-là. Être dans l'unité, ça ne veut pas dire être d'accord sur tout. Ça ne veut pas dire que ça y est, les ailes vous poussent dans le dos et vous survolez le sol. Voilà. Non, être dans l'unité, ça veut dire que vous allez renoncer à vous-même sur certaines choses. Mais vous allez viser ce qui vous rassemble. Vous allez viser ce qui vous rassemble. J'ai été dans le comité Pulse pendant 5 ans. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est Pulse. C'est des réunions de jeunes, interdénominationnelles pour les jeunes. Et on savait très bien que si on voulait mettre la discorde, il fallait sortir des sujets virulents, qui sont pourtant traités dans la parole. Mais on s'est dit, si on veut rassembler les jeunes pour que la jeunesse de Paris se réveille, eh ben on ne va pas parler de ça, et de ça, et de ça, et de ça. Mais par contre, on va parler de ça, 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 ça. Et bien là, on n'a pas fait de concession. Parce qu'on n'a pas, même si nos convictions étaient certaines sur certains sujets, on n'a pas fait de concession. On s'est juste dit, nous ce qu'on vise, c'est l'unité. Et si on veut toucher ces gens-là, il va falloir trouver des sujets qui vont nous rassembler. Il y a beaucoup de gens qui ont Facebook, et il y a beaucoup de gens qui ont des amis sur Facebook, genre 3000, 4000, 250, etc. Et ça grandit tous les jours. Mais avec ces gens-là, excusez-moi, vous n'avez pas toujours une relation. Moi, des fois, il y a des gens qui me demandent d'être amis Facebook. Je ne connais pas ni Dave ni Adam. Et je me dis, non. Je ne vais pas être amie avec toi, je ne te connais pas. Alors il faut mettre des pouces en l'air, les likes, etc. Mais ça, ce n'est pas des relations. On est dans un monde qui a créé beaucoup de réseaux sociaux, qui a créé beaucoup d'activités, qui a créé beaucoup de choses pour nous détourner des vraies valeurs. Et les gens n'ont jamais été aussi seuls. Les gens sont dans le désespoir parce qu'ils sont seuls. Ils n'ont pas d'amis. Ils n'ont pas de relation avec des gens, tout simplement. Ils ne connaissent pas leurs voisins. Ils sont enfermés chez eux derrière leur petit ordinateur. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand moi, je vous parle de relations dans l'Église, et moi, je l'avoue la première, il y a des gens que je ne connais pas dans cette salle. Et quand je dis que je ne connais pas, ce n'est pas que je ne les visionne pas avec leur visage, etc. Si, je les ai déjà vus, mais je ne les connais pas réellement. Parce que je n'ai pas eu le temps de prendre du temps avec eux, parce que je ne sais même pas ce qu'ils font dans la vie. Il y en a même, je ne me rappelle pas de leur prénom. Et ça, je sais que je dois faire des efforts. Je ne vais pas me dire, bon, bah, c'est pas grave, les 10 premiers rangs, je les connais, et puis les autres, on verra l'année prochaine. Non, je sais que je dois travailler ça. Je ne peux pas être là et vous dire quelque chose que moi, je ne vais pas mettre en œuvre. Sinon, vous allez me dire, médecin, guéris-toi toi-même. Marc n'est pas là pour répondre. Peut-être qu'il aurait dit, oui, je connais toutes les personnes dans la salle. Je dis souvent que pas de relation, pas d'embrouille. Mais j'ai appris l'année dernière qu'en fait, on peut ne pas avoir de relation avec les gens, et les gens, ils sont embrouillés avec vous. Donc, réconcilions-nous les uns les autres. Ayons cette relation que Dieu nous demande d'avoir. Soyons un, soyons ce corps. Après, c'est vrai que ça peut être difficile, mais il y a des choses qui nous rassemblent. un besoin, j'ai un besoin. Je ne vais pas te raconter toute ma vie, mais là j'ai un besoin. Eh bien, toi tu peux prier pour moi, et moi je vais être bénie par ta prière. J'ai besoin d'un service. On ne va pas passer nos vacances ensemble, mais si tu peux me rendre ce service, ou moi je te rends un service, eh bien voilà, je vais apprendre à te connaître. J'ai des aspirations, j'ai des projets. Je vais t'en parler, parce que peut-être que toi tu as le même projet que moi. Ça se trouve, vous êtes assis à côté de quelqu'un qui est une réponse à votre problème. Prenez note de la personne qui est à côté de vous. Quelqu'un veut peut-être vendre une voiture. Quelqu'un a peut-être besoin désespérément d'une voiture. Quelqu'un a besoin de faire garder son enfant. Quelqu'un cherche un petit job d'été. Quelqu'un a plein de livres à virer, sait pas quoi faire. Quelqu'un a besoin d'acheter des livres. Vous savez pas, vous connaissez pas les gens qui sont autour de vous. Il y en a qui vident des sacs et des sacs de vêtements. Il y en a qui ont besoin de vêtements. Il y en a qui ont... Je sais pas, qui ont des jardins, qui ont des fruits, des légumes, et puis il y en a qui disent « Oh, ça, j'aimerais bien avoir des trucs, mais j'ai pas le temps d'aller au marché, j'ai pas le temps ci, j'ai pas le temps ça. » Il y a des personnes, je suis sûre, elles habitent au même endroit, elles prennent leurs deux voitures, elles font la route séparément. Vous allez me dire « Oui, mais ça, c'est pas spirituel. » Bah si, c'est spirituel. Parce que c'est dans les choses d'abord visibles que Dieu nous demande d'être obéissants. Et après, les choses invisibles, elles arrivent. Et c'est bien noté, je l'ai lu, disent, tu peux avoir tous les biens du monde, si tu n'as pas compassion de ton frère qui est dans le besoin, ben t'es dans les ténèbres. Voilà, je me suis perdue. Donc, pour l'unité, il faut l'obéissance. Pour l'unité, il faut l'amour. Et pour avoir l'amour, il faut une relation. Et tout ceci nécessite des efforts. C'est pas simple. Et sachez que pendant que nous ne faisons pas cela, eh bien, l'ennemi, lui, il s'amuse. Il prend plaisir. Je ne veux pas vous faire stresser, vous inquiéter. Mais Dieu nous demande d'être sobre et de veiller parce que le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui le dévorera. Donc l'année dernière, je vous disais... J'ai appris qu'on pouvait ne pas avoir de relation avec quelqu'un, mais que la personne elle soit complètement embrouillée contre vous. Et sûrement parce que moi, je n'ai pas veillé, et sûrement parce qu'elle n'a pas veillé. Et en fait, le diable, des fois, vous passez dans l'église, la personne ne vous a pas vu, ou elle doit courir après quelque chose, ou voilà. Et puis, ben, vous êtes là, « Ah ouais, mais de toute façon, elle me traite de haut, elle me voit pas, elle n'a pas de temps pour moi, etc. » Et vous commencez à vous monter votre petit film. Et pendant ce temps-là, ce n'est pas l'amour qui pousse dans votre cœur. C'est du ressentiment. Alors que Dieu vous demande d'accomplir la loi par ce deuxième commandement. 1 Jean 4, verset 7 nous dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu que Dieu est amour. » Vous vous rendez compte? C'est marrant. La traduction, comment elle donne? Celui qui n'aime pas n'a pas connu. En fait, c'est comme si vous avez des, entre parenthèses, des compétences. Vous avez appris Dieu est bon, Dieu si, Dieu ça, Dieu fait des miracles, blablabla. Et en fait, si vous ne le mettez pas en pratique, si ça n'agit pas dans votre cœur, si ça n'a pas de résonance dans votre vie, c'est comme si vous n'aviez aucune connaissance de Dieu. C'est dingue, hein? Il y a un autre verset aussi qui dit « N'aimons pas seulement en parole. » Faisons aussi, aimons aussi en action. Je n'ai pas noté, mais... La semaine dernière, on nous avait exhorté à lire Romains 12. Et je me suis dit, en préparant ma prédication, bah, en fait, on va lire Romains 12, et puis voilà, c'est fait, je n'ai plus rien à faire. Je vais vous citer le verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. » Ce qui sera de votre part un culte raisonnable, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. petite parenthèse, ce qui est bon, agréable et parfait, c'est pas forcément bon, agréable et parfait à vous. Non pas parce que vous n'êtes pas gentil, mais parce que c'est bon, agréable et parfait à Dieu. Et tant que votre chair parlera d'elle-même, ce que Dieu va vous proposer, ça ne vous semblera pas forcément bon, ça ne vous semblera pas forcément parfait, ni agréable. Donc, il est important que nous travaillions à aspirer à la volonté de Dieu. Et quand vous allez être dans cette direction-là, à aspirer à la volonté de Dieu, ce que Dieu va vous dire, ce que Dieu va vous demander, vous allez dire, ouais, c'est bon, c'est agréable et parfait. Nous n'avons pas la même nature. Nous avons été créés et nous avons eu ce péché qui a changé notre nature. Et notre chair, elle combat la nature divine. Elle n'est pas d'accord. Donc notre travail à nous, c'est de rechercher à être comme Dieu, rechercher à comprendre la parole de Dieu, rechercher à être transformé par Dieu. Il ne dit pas « transformez-vous », il dit « recherchez ». Ça veut dire que il suffit qu'on pointe la direction et Dieu va nous emmener dans la direction. C'est lui qui va faire la différence. C'est lui qui va apporter l'ingrédient qui va faire la différence. Toujours Romains 12, verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Il aurait pu dire exercer la charité. Non, il connaît notre nature. Que la charité soit sans hypocrisie. Parce que des fois, il y a des gens qui font les choses pour être vus, en fait. Voilà, je vais faire ça, puis tout le monde va me voir. Puis je dirai non, c'est le Seigneur. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Vous vous rendez compte? Attachez-vous fortement au bien. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des films avec des tornades. Moi, j'ai déjà vu des films avec des tornades. Je dis ça parce que moi, je n'ai jamais vécu une vraie tornade et je ne souhaite pas vivre une vraie tornade. Mais des fois, ils sont tellement désespérés qu'ils trouvent un truc, une corde, une ceinture, je ne sais pas trop quoi, et ils s'attachent à n'importe quoi de solide. Ils s'attachent fermement parce que quand le vent, la tornade va arriver, ils ne veulent pas partir, ils ne veulent pas décoller. Et il faut garder cette image pour ce verset. Attachez-vous fortement au bien. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une volonté à poursuivre le bien. Ce n'est pas juste quelque chose qui est un sentiment. Je me lève le matin, et puis comme Cendrillon, les oiseaux arrivent, ils chantent une chanson, et la vie est belle. Non. C'est quelque chose qui nécessite un effort. Il faut que nous soyons attachés. Il faut que nous poursuivions la volonté de Dieu. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Vous vous rendez compte que c'est quasiment du savoir-vivre, là. Prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. C'est du savoir-vivre. C'est important que nous soyons comme ça. Sinon, comment les gens à l'extérieur vont voir que nous faisons partie du peuple de Dieu, que nous sommes cette appartenance, nous sommes à Dieu. Si je retrouve le verset, c'est toujours dans la prière de Jésus, il dit que nous soyons un, qu'il soit un comme nous sommes un, afin que le monde voie que tu m'as envoyé. Vous vous rendez compte que Jésus attache ce résultat, que le monde voit que Jésus a été envoyé par le Père, au fait que nous, nous demeurons en lui et que Dieu demeure en nous. C'est ça qui va convaincre les gens. Si nous sommes unis, les gens vont voir que Jésus a été envoyé du Père. Je voulais vous laisser cette image. Vous connaissez les voitures, là, maintenant, c'est tout nouveau. Vous êtes au volant de votre voiture, dernier modèle. Et quand vous arrivez au feu rouge, le moteur se coupe. Et au moment de repartir, ça repart au quart de tour. Et bon, moi, j'ai une vieille voiture. Ma voiture ne s'arrête pas. Si elle s'arrête, c'est que j'ai calé. Et je voulais vous laisser cette image. Soyons pas des chrétiens, un dernier modèle, où la carrosserie est belle, etc. Et que dès qu'on commence à ralentir dans notre vie spirituelle, le moteur se coupe. Soyons ces personnes plutôt qui ont de l'endurance et qui ralentissons, mais qui repartons. Et le moteur ne se coupe pas. Pour ceux qui ont du mal à comprendre l'image, imaginez votre cœur qui s'arrête. Non, vaut mieux pas. Ayez ce cœur qui bat toujours, toujours, toujours. Il accélère, il ralentit, mais il bat toujours. Imaginez maintenant un Dieu en vacances, ou un Dieu en intérim. Un salut en intérim, ou avec des options. Pendant 7 ans, ça marche, et puis après, il faut tout recommencer. Et puis, quand Jésus revient, ben, en fait, il est salut périmé. Soyons obnubilés par l'unité. Soyons concernés par l'unité, par l'obéissance, par l'humilité et par le fait de travailler ensemble. Là, c'est les vacances et septembre, ben, voilà, c'est l'année scolaire qui reprend. Donc normalement, il y a les étudiants qui repartent. Puis voilà, ceux qui ont pu avoir des vacances, ils vont, c'est reparti. Même l'économie repart en septembre. Et nous, pour notre Église, quels sont nos projets? Qu'est-ce que nous allons faire dans cette année 2016-2017? Quels sont nos projets? Qu'est-ce que nous avons eu à cœur qui bout au fond de nous et qui va nous faire un peu la ligne de direction? Alors, je vous parle pas d'une vision d'Église, parce qu'on a une vision d'Église, mais je vous parle des projets que Dieu a écrits pour nous, qu'il a préparés d'avance et qui moisissent dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos vies, parce qu'on n'ose pas en parler, parce qu'on n'ose pas les mettre en action, parce que bah, tout simplement on se dit non, mais là c'est trop ringard, ou c'est pas le temps de Dieu. En fait, c'est tout le temps de Dieu, c'est juste Dieu qui nous attend. Donc les projets que Dieu il a écrits pour nous, il faut les accomplir, il faut les mettre en marche. Et Dieu ne nous demande pas de sauter tout de suite la montagne, mais il nous demande de commencer à monter. Alors, dans cette unité, parce que l'Église ne peut pas être inactive, comme je vous ai dit, le cœur, il doit battre tout le temps. Mais il doit battre tout le temps, et il doit être en action, et il doit exercer ses talents, il doit exercer ses projets, il doit exercer la volonté de Dieu. Il nous a tous fait différents, avec des capacités différentes, mais il nous a unis pour que nous puissions agir ensemble, chacun à notre capacité, chacun à notre... Je sais pas, chacun selon ce que nous avons reçu, pour accomplir les desseins que lui a écrits pour nous. Je sais que je m'en mêle et que je répète, mais... Dieu ne nous a pas juste sauvés pour être sauvés. Sinon, on dirait, ah, Seigneur, tu es mon Seigneur, au ciel. Si nous sommes encore sur terre et que le compteur tourne, c'est que nous avons des choses à faire. Demandez aux retraités qui sont encore en action dans cette église. À un moment, moi, je me suis dit, mais attends, en fait, les jeunes, ils consomment. Les un peu moins jeunes, ils consomment. Par contre, les retraités, dans l'église, ils sont à fond. On a des guides qui partent à gauche et à droite prêcher, et on a qui courent à gauche et à droite. Guy Tarson, par exemple, lui, je ne sais pas à quoi il carbure, mais je veux la même chose. Hein. Il va à l'église chinoise, il va à Dieppe, il fait ci, il fait ça, etc. C'est un témoignage. Il est à la retraite, le gars. Hé, jeunesse. Allô. Vous devriez courir plus vite que lui. Et nous, je dis nous parce que je suis entre deux. On devrait aussi le rattraper. On devrait mettre en berne des projets. Parce que Dieu, il a écrit des projets. C'est écrit dans la Genèse. Relisez la Genèse. Moi, j'aime bien l'Ancien Testament parce que c'est le plan d'attaque de Dieu. Il dit qu'il a écrit des projets pour nous. Il n'a pas juste créé un monde pour que ce soit joli, sympa. Dieu n'est pas un décorateur. Il n'a pas juste fait, voilà, un petit arbre, et puis voilà, puis on va mettre un nom, et puis ce sera cool. Non, non. On a des choses au fond de nous, et je sais, moi j'en ai, et je sais que vous en avez, et qu'il n'est jamais trop tard. Il sera trop tard quand on sera à votre enterrement. Mais pour l'instant, le compteur tourne encore, il y a des choses à faire. Et je pense que le chiffre 1 est trop petit. Vous avez besoin, même si c'est vous qui devez le mettre en place, même si c'est vous qui devez mener l'action, vous avez besoin d'être encouragé, vous avez besoin de financement, vous avez besoin d'être épaulé, vous avez besoin d'être guidé spirituellement, vous avez besoin d'être, compris pour vous. C'est pour ça que c'est un travail d'équipe. Même si, au final, c'est vous qui allez faire sortir ce projet, mais il vous faut une équipe derrière vous. Il vous faut une équipe. Moi, j'aime bien les sports d'équipe. Parce que la victoire, elle est à tout le monde. Elle n'est pas juste à un. Maintenant, j'aimerais juste finir en vous donnant les prévisions météo de l'Église. Dans Hébreux 12, verset 14. Je vais vous donner la température. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. Ce qui n'y est ni, et qu'il n'y ait ni impudique ni profane, comme Ésaïe, qui pour un même vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitât avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Vous connaissez Ésaü ? C'est le frère jumeau de Jacob. On dit le Dieu d'Israël, d'Abraham, d'Isaac, et d'Israël, c'est Jacob. On ne parle pas d'Ésaü. Vous pouvez avoir ce droit d'aînesse sur votre vie, un projet que Dieu a réservé pour vous, et en fait, pas rentrer dedans. Vous pouvez tout simplement pas rentrer dedans. Et c'est grave. Et c'est grave. Je vous assure que c'est grave. Quand je pense à Ésaü, des fois je me dis, mais il aurait pu faire l'histoire, quoi. Il aurait pu faire l'histoire. Mais c'est son frère qui est Israël. Il y a une phrase dans la Bible qui crée en moi l'ébullition. C'est dans Romains 8, verset 19. La création soupire après la révélation des fils de l'homme. Je trouve ça grave. La création nous attend, en fait. La création, elle nous attend. Dieu nous attend. Dieu t'attend. Qu'est-ce que tu attends ? Réveille-toi. Je vous lis Romains 8, 19. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son plein gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise avec l'espérance. Vous vous rendez compte que, en fait, si vous voyez la nature de Dieu, les montagnes, les arbres, etc. Ils attendent que l'Église passe à l'action. Ils attendent que nous soyons unis. Ils attendent que nous soyons obéissants. Ils soupirent après notre obéissance, notre humilité, après nos projets, pour que la gloire de Dieu soit vue. Jésus dit, pour qu'enfin le monde voie que tu m'as envoyé. La responsabilité que nous avons. Et la version Darby dit, car la vive attente de la création attend la révélation des fils de Dieu. Car la vive attente de la création attend la révélation des fils de Dieu. Acte 18, verset 9. C'était à Paul que Dieu s'adressait, mais j'aimerais vous l'adresser aujourd'hui. Parce que tout a pour but le salut du monde. L'unité dans l'Église a pour but le salut du monde. Et quand je dis le monde, c'est nous sommes. Nous sommes ces personnes qui ont obtenu le salut. Donc, que l'Église soit en action pour que nous puissions justement garder cet attachement au salut. Il faut que nous soyons des personnes en action, dans l'efficacité, dans l'obéissance à la parole de Dieu, et que nous avancions. Nous avons une Église qui donne beaucoup de, comment dire, d'accueil, de restauration. Nous avons un pasteur qui prend soin de ses brebis, et je vous assure que ce n'est pas dans toutes les églises qu'il y a ça. Je crois que j'ai dit la phrase qui va enlever ma prédication du site internet. Mais nous avons besoin maintenant de sortir de cette église et de porter du fruit et de nous révéler à ce monde, de révéler cette richesse que nous avons reçue. Pas demain, aujourd'hui. Et que nous puissions échanger ce que nous avons à cœur. Non pas avec cette attente d'être jugés, parce que nous ne voulons pas nous juger les uns les autres, mais avec cet espoir d'être encouragé, d'être porté, qu'on puisse porter les projets les uns des autres, qu'on puisse prier les uns pour les autres, et que cette église puisse briller dans ce quartier qui a besoin de délivrance. Et dans Actes 18, verset 9, « Mettez votre prénom à la place de Paul. » Le Seigneur dit à, en vision pendant la nuit, « Ne crains pas, mais parle et ne te tais pas, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et vous allez me dire, elle est passée du coq à l'âne. Mais c'est ça. Dieu a créé la terre et l'homme pour avoir une relation avec lui. Tout ce qui se passe entre peut être résumé comme ça. Nous devons aider cette population qui est autour de nous à retrouver cette relation avec Dieu. C'est le but de l'Église. Et pour commencer à apporter quelque chose à l'extérieur, il faut que nous ayons reçu ça ici. Et pour que nous soyons unis, il faut travailler à l'unité. Il faut même la provoquer, prendre du temps, prendre de l'argent. Il faut vraiment, 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 vraiment que nous avancions. Parce qu'on ne peut pas continuer sans... Je vous souhaite de ne pas continuer votre vie sans être traumatisé ce matin. Je voudrais que vous soyez marqués par cette urgence. Nous avons besoin d'obéissance et d'humilité, de persévérance à la parole de Dieu. Et que nous puissions maintenant ne plus regarder à nous-mêmes. Mon Dieu, Dieu fais-moi, Dieu donne-moi, Dieu pourvoit. Mais Seigneur, j'ai compris l'urgence et je veux travailler avec toi. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Dis-moi ce que tu veux que je fasse dans l'église et ça va exploser à l'extérieur. On peut donner que ce qu'on a reçu. Et nous avons la source intarissable, donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas reçu. Mais maintenant, Dieu nous demande un travail d'obéissance. Je voudrais prier avec vous. Seigneur, si la création attend la révélation des fils de l'homme, je pense que toi, tu uses de patience envers nous. Que personne ne se perde et que tu soupires pour que les projets que tu as créés, que tu as écrits sur nous s'accomplissent. Et je sais, Seigneur, que nous allons repartir et que nous allons manger et on va passer cette semaine. Mais je te prie, Seigneur, de nous traumatiser aujourd'hui, de faire en sorte que ta parole ait son écho tous les jours de notre vie et que nous puissions être rattrapés par ce souci du salut des âmes autour de nous. Et tu dis que ton joug est léger, que ton fardeau n'est pas lourd. Alors nous voulons revenir à la source et porter ce que toi tu nous demandes de porter. Tout le monde ne sera pas devant la scène, tout le monde ne sera pas dans les rues, tout le monde ne sera pas, je ne sais pas, auprès des malades. Mais ce que tu nous demandes de faire, que ce soit dans l'artistique, que ce soit dans la politique, que ce soit juste auprès des personnes âgées, que ce soit auprès des enfants, que ce soit d'écrire un livre, que ce soit de faire un film, que ce soit de dessiner, que ce soit de danser, que ce soit juste de donner de l'argent. Seigneur, dans ce rouage où tu nous as placés, nous voulons répondre afin que ce corps, qu'est l'Église, ait un bon fonctionnement, que chacun à son poste, nous puissions accomplir ta volonté. Et nous voulons être dans l'unité, d'accord sur tout ce qui a été écrit dans ta parole. Nous voulons que ce soit assimilé dans nos cœurs et que ce soit quelque chose qui dirige notre vie. Je te prie pour toutes les personnes de cette église, toutes les personnes qui ont passé cette porte. Je te prie vraiment que tu te rappelles à nous, parce que tu es un Dieu d'action. Tu n'es pas un Dieu qui attend dans le silence. Tu es un Dieu qui a créé l'univers. Tu es un Dieu qui veut une relation. Tu es un Dieu qui use de patience envers nous, qui veut faire les choses à notre rythme. Et nous voulons vraiment répondre ce matin. Tu ne nous donneras pas plus que nous puissions porter, mais nous voulons porter ce que tu vas nous confier. Seigneur, bénis cette église, bénis notre pasteur, bénis tous les leaders, bénis toutes les personnes qui ont à cœur des projets et qui n'osent pas les mettre sur la table, n'osent pas en parler. Je te prie que tu délies les langues, que tu donnes une oreille attentive, que tu permettes, Seigneur, que nous puissions être partenaires les uns des autres, que nous marchions comme une armée soudée et que nous travaillons, Seigneur, à nous aimer, que nous travaillons, Seigneur, à construire dans l'unité. Au nom de Jésus. Amen.